On est au cours numéro 7. Les deux dernières fois, on a vu où trouver la révélation. Et donc, la dernière fois, c'était sur la tradition et le magistère. Et en quoi il nous transmettait fidèlement la révélation. Rappel toujours, c'est que la plénitude de la révélation, elle nous a été donnée, quand Dieu s'est donné tout entier, une fois pour toutes, dans le Christ. Donc, il n'y a pas de. On a bien vu ça avec la tradition et le magistère, qu'il y avait une continuation, mais pas de l'ordre de la. Enfin, la plénitude de la révélation, elle est dans le Christ. Voilà. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus les autour, un peu de la façon dont on vit ça, nous chrétiens, ou pas trop chrétiens d'ailleurs. Et donc, de voir, c'est ce que. Il y a toujours la tentation de se dire qu'il y a des données nouvelles, qu'il nous manque un certain nombre d'informations, qu'on devrait avoir de nouveaux événements, un temps nouveau, une nouvelle ère, etc. Donc il y a toujours cette tentation que finalement, pas reconnaître que tout a été donné dans le Christ et qu'on peut vivre de cette plénitude-là, mais l'impression qu'il nous manque toujours des choses pour avancer. Et c'est un peu dans ces thématiques-là qu'on a tout ce qui est les révélations privées, comme si les révélations privées allaient compléter l'enseignement de l'Église. Ça peut être aussi des visions, des apparitions, etc. Et donc, comment tout ça comment ça s'articule. En même temps, ce qu'on voit, c'est que de le temps depuis l'ascension, on n'est pas immobile, suspendu, en attendant la fin des temps. Donc, le temps, il avance, il y a des choses qui se passent. Et donc, on n'est pas juste sur... on répète éternellement tout ce qui s'est dit, tout ce que Jésus a dit. Donc, on est dans quelque chose qui, quand même, est vivant. Et donc, qui se déploie, quelque chose. On voit que Dieu, il continue de soutenir son peuple. On voit ne serait-ce que avec les saints, on voit bien qu'il y a de l'action, il y a des choses qui se... des gens qui sont inspirés. On voit bien qu'il y a aussi de nouvelles formes de services. On voit bien les communautés. Il y a des communautés plus récentes qui sont nées d'une intuition ou d'une inspiration différente. Donc, il y a tout ce déploiement qui montre que les choses ne sont pas figées et donc il y a des voies vers l'avenir et qui avancent quelque part dans le temps. Et puis, on a aussi le fait qu'il y a des événements et donc, du coup, ça aussi, ça vient percuter un peu la révélation du Christ, pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Et aujourd'hui, probablement qu'on ne regarde pas la foi ou qu'on ne parle pas des choses de la révélation de la même façon que les premiers pères de l'Église, parce que forcément, il y a des choses qui se sont dites, et donc il y a une façon de regarder qui est différente. Donc l'idée, c'est un peu de comprendre tout ça et de repositionner finalement quelle est l'histoire depuis le Christ et comment ça s'articule. Donc la première partie, c'est un peu la clôture de la révélation, puisque finalement, quand on affirme que tout nous est donné en plénitude, et c'est ce qu'on a vu aussi quand on a vu le canon des Écritures, il est figé à un certain temps, donc plutôt le début du IIe siècle. On n'a pas une date précise, mais enfin, c'est par là. Et donc, quand on dit que le canon des Écritures est clos, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau livre depuis. Donc on est bien sur quelque chose qui a été arrêté, clos, à cette époque-là. Et pourquoi cette clôture c'est parce qu'on considère que la foi des apôtres, dont le credo, c'est ce qu'on dit dans notre credo, c'est la forme résumée de ce qu'il croit, et finalement qui reprend un certain nombre de choses qui sont dites dans les actes des apôtres, que les apôtres ont dit. Donc on a bien quelque chose qui s'est concentré avec des pots de la foi qui a l'air d'être au niveau des apôtres, les témoins. Donc, quelque part, il n'y a pas de nouveaux messages célestes ou d'écrits, même s'ils peuvent être très intéressants, qui rajoutent quelque chose au dépôt reçu. C'est ce qu'on voit aussi dans 2 Timothée. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Donc, on voit déjà la tension entre le dépôt de la foi qu'on garde et puis l'Esprit-Saint qui, quelque part, l'Esprit-Saint est rarement statique. Donc, il met du mouvement là-dedans. Donc on a vu que c'était pas le seul, que le texte biblique serait le seul à avoir autorité dans l'Église, parce qu'en fait ce que signifie tout ça, c'est que c'est la personne du Christ qui est manifestée dans l'histoire, reçue par les apôtres, constitue la forme indépassable de la révélation. La révélation, c'est toujours une personne, ce n'est pas ni un texte, ni des dogmes, ni des concepts, mais c'est la personne du Christ. C'est Dieu qui se manifeste dans l'histoire. Et les apôtres, en fait, ils sont vraiment les témoins de ça. Et c'est pour ça qu'il y a une clôture aussi, c'est que c'est les premiers témoins. Il y en a un peu sur le témoin charnel, presque, entre la résurrection et l'ascension, où ils ont vu le Christ ressuscité et donc en gloire. Et donc il y a ce contact avec Jésus. Donc on est toujours en lien avec le témoignage et Jésus ressuscité. Donc en fait, quelque part, on pourrait dire que la clôture, c'est plutôt le montant de l'ascension, puisque c'est le moment où le Christ quitte notre terre, visiblement. Et donc c'est ce moment-là qui, quelque part, clôt la révélation au sein de l'histoire, même si on va voir qu'est-ce que ça veut dire en termes de déploiement. Donc les écueils qu'il y a eu en logique de dépassement, là, dans cette idée que il y a encore des choses à découvrir et qu'on n'a pas tout eu et donc on est un peu frustré. Donc c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas, que la révélation, ce n'est pas juste un ensemble de textes, de collections de vérités qu'on conserverait jalousement. Et donc c'est ça qui génère cette idée de dépassement. Et on a plusieurs manières de faire ça. On voit que l'islam, par exemple, il dit Jésus est le précurseur de Mahomet. En fait, on a, comme les chrétiens ont dépassé la Torah des juifs, et de la même façon, les musulmans dépassent le Nouveau Testament et la donnée du Christ. Donc on a cette idée de, il y a un nouveau temps qui ouvre sur une meilleure plénitude, une meilleure révélation. Donc, c'est typiquement ce que dit l'islam. D'ailleurs, on peut souvent leur objecter en disant pourquoi il n'y en aura pas un quatrième derrière et pourquoi pas un cinquième et pourquoi pas un, parce que sinon on peut continuer aussi comme ça longtemps. Il y a aussi Joachim de Flore, qui était un abbé cistercien au XIIe, qui a essayé de faire un parallélisme rigoureux entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en disant l'Ancien Testament c'est le règne du Père, le Nouveau Testament c'est celui du Fils. Donc évidemment, on voit poindre l'idée que il y a un nouvel âge qui serait l'âge de l'Esprit et qui réaliserait les promesses. Donc on a un temps qui viendrait quelque part accomplir quelque chose, préparé par le Christ, mais pas abouti quelque chose comme ça. Il a même été jusqu'à pronostiquer l'arrivée d'un moine spirituel qui fait rentrer l'Église dans ce nouvel âge. Donc pour lui, c'est même pas le début de l'Église, c'est quelque part un moine au milieu de nulle part. Et quand Saint François est apparu, tout le monde a dit, c'est la prédiction, c'est le nouvel âge avec tout ce que Saint François a apporté. Soit d'Assise. Donc l'Église, elle a mis en garde contre ce danger, puisque c'est l'Église apostolique, et donc la continuité depuis les premiers apôtres, qui est l'Église spirituelle, déploie le Nouveau Testament dans le temps où nous sommes. Voilà. Et on sait très bien qu'on attend quand même le jour où le Seigneur se fera tout en tous, et donc à la fin des temps. On peut penser que Hegel a construit aussi sa philosophie de l'histoire en s'appuyant sur ce schéma-là, avec l'idée qu'il y a un autodéploiement de l'esprit à l'intérieur duquel l'homme en fait peut progresser en fait, au lieu d'être en attente passive du salut et donc d'être juste dans la réception. Il serait acteur du progrès avec cette idée de progrès spirituel, qui ferait avancer l'histoire. Voilà. On a un peu la même idée avec le progressisme catholique des années 70, qui pensait, du coup, faut s'imprégner du monde. Ce qui est important, c'est le monde dans lequel on est. Il y a des appels, il y a les pauvres, il y a les gens autour de nous. Et donc, ça nous révèle plus Dieu que finalement le texte et ce qu'on nous raconte dans l'Église. Donc, quelque part, on faisait un peu fi de Jésus historique, on va faire un peu de côté, parce que de toute façon, on ne peut pas le retrouver, puisqu'il n'est plus là. Donc, on va chercher dans le monde quelque chose de plus prégnant, où on peut mieux voir comment Dieu se révèle dans notre monde. Voilà. Donc, tous ces écueils, en fait, c'est toujours le fruit du péché, qui est la volonté de mainmise de l'homme sur l'histoire. De gouverner quelque part l'histoire et de lui donner du coup une dimension de progrès où on pourrait agir. Donc c'est l'idée que on devient maître de l'histoire, avec cette logique aussi diviseur. Dès qu'on dit l'Ancien Testament c'est le Père, le temps du Fils, le temps de l'Esprit, on est en compartimentant, alors que la Trinité elle est un mystère de communion. Et donc on est bien exactement à l'opposé de la révélation de notre Dieu Trinité qui est communion au sein même de la Trinité et puis communion avec nous. Donc on voit bien qu'il y a c'est toujours le fruit du péché qui nous empêche de recevoir Dieu tel qu'il se révèle de son point de vue et non pas de notre façon de le recevoir. Alors, il ne faudrait pas en déduire que du coup, cette clôture de la révélation avec la clôture de la Bible quelque part est fermée. Et donc, on a un dépôt et puis c'est fini. Et avec la mort du dernier apôtre, on a fini les ères des témoignages. Donc maintenant, on a juste à vivre de ça. Voilà. Et donc, on a vraiment cette dimension d'actualisation, puisque aujourd'hui, il faut bien qu'on le vive, la révélation, qu'est-ce qu'elle dit pour moi aujourd'hui et comment je la reçois aujourd'hui. Donc, on a bien deux pans, on va dire, la Bible et l'actualité de la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, il y a du passé et du présent. Le fait que la révélation, comme ce n'est pas un corps doctrinal, ce n'est pas d'abord des dogmes, ce n'est pas d'abord des vérités conceptuelles, ce n'est pas d'abord un texte, mais c'est d'abord une personne, c'est Dieu qui se communique dans l'histoire. Donc, quelque part, ce n'est pas non plus une clôture au sens très strict du terme. En disant, on ne peut pas sortir des bornes de ce que nous dit la Bible, les choses comme ça. Donc, il faut bien aller au-delà, parce que finalement, le Christ est toujours vivant. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, donc il y a quelque chose... et de vivant dans la façon dont Dieu se révèle aujourd'hui, après le Christ, après la venue du Christ dans l'histoire humaine. Et donc, il y a un développement qui est possible. Voilà. Et en fait, ce développement, il s'appuie sur la communauté Église. Donc, c'est là où on fait le lien avec le magistère et la tradition qu'on a fait la dernière fois, avant de passer à ce que ça veut dire sur les dimensions plus personnelles. C'est parce qu'on a cette continuité entre la communauté primitive et donc les apôtres qui sont les témoins du Christ ressuscité, qui l'ont touché dans sa chair. Thomas, voilà, il a mis sa main dans les... Enfin, on ne dit pas qu'il l'a mis, mais en tout cas, il les a vus suffisamment pour qu'il puisse dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et donc, on a cette continuité. Et d'ailleurs, c'est l'Église qui a produit les Écritures. Donc, le canon, il est lui-même le fruit de cette continuité de cette première communauté Église. Et donc, même aujourd'hui, elle continue à s'assurer qu'on ne fait pas dire n'importe quoi à ce que le Christ a dit. Et donc, on garde cette à la fois fidélité, continuité, et en même temps, une réinterprétation et une actualisation. Donc, on a une continuité de sens, mais pas parce qu'il y a une continuité historique. Et c'est bien pour ça qu'on parle de la continuité depuis Saint-Pierre jusqu'au pape aujourd'hui. Voilà, c'est cette continuité qui assure ce lien et cette continuité de sens. Voilà. Et donc, on a toujours l'événement Jésus-Christ, le moment où Jésus-Christ est entré dans l'histoire, qui doit être interprété et que forcément, on va utiliser des expressions et une configuration différente parce qu'on est aujourd'hui dans un autre contexte. Et donc, on a une transmission qui n'est pas une répétition, mais qui est une actualisation toujours manifestée et finalement dans l'esprit. C'est ce qu'on a vu aussi la dernière fois. On a aussi cette question de ce fait que la parole de Dieu est aussi une réponse aux questions des hommes. Et ça, on va le voir un peu plus loin dans le côté signe des temps, comment est-ce que je lis les choses et comment je peux lire ce qui se passe. Et donc, on a effectivement, on a les questions des hommes qui se déploient différemment. Il y a des questions qui sont aujourd'hui qui peut-être ne l'étaient pas du tout à l'époque. Voilà, l'euthanasie, je ne suis pas très sûre qu'au 1er siècle, on avait des questions, peut-être qu'on l'avait, mais ça n'a pas l'air tellement les sujets d'actualité de l'époque. Donc il y a des choses qui se posent maintenant, qui ne se posaient peut-être pas à l'époque. Ils sont sur les contraceptions, les choses comme ça. Enfin, il y a des choses forcément, ou même sur tout ce qui est les thérapies géniques, les êtres vivants qu'on duplique là, les clones, merci. Les mots. Voilà, donc il y a des questions qui se posaient probablement pas à l'époque. Et donc, parce que la révélation, elle est plénitude, elle peut nous dire des choses. Alors, il ne s'agit pas de. C'est pas une question de réponse scientifique, mais elle dit des choses parce que là, on parle de l'homme et de comment il doit être. Donc, il y a quelque chose qu'elle peut nous dire. Donc, bien évidemment, ça veut dire que la parole de Dieu, elle répond aussi à nos questions d'aujourd'hui. Et quelque part, les questions qu'on se pose, c'est aussi le fait qu'on a reçu ce témoignage et que donc on se pose ces questions-là sur qu'est-ce qu'est l'homme et comment Dieu voit l'homme. Donc, c'est un aller-retour entre les deux. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit le rôle complémentaire du dogme et de l'écriture, qui sont comme deux témoins de l'évangile, mais qui finalement n'expriment jamais l'évangile tout entier, puisque l'évangile, c'est le Christ. Donc, il y a toujours quelque chose qui dépasse. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler d'une révélation qui n'est pas close, mais toujours ouverte. Puisqu'on a cette ouverture qui déborde et qui est liée au fait que la personne du Christ déborde largement notre cadre et nos... Enfin, ça reste un mystère et quelque chose qui nous dépasse. L'autre point aussi qui est important, c'est que la révélation, elle est une relation. Donc, enfin, l'idée, ce n'est pas juste des dogmes et des vérités, c'est une relation entre Dieu et l'homme. Donc, quelque part, on a, d'ailleurs, c'est une révélation en acte, voilà, Jésus il est venu pour parler, pour restaurer le lien entre l'homme et Dieu. Et donc on a le, du côté de la réception, donc on ne peut pas regarder juste l'écriture et le dogme, mais il faut qu'on regarde aussi ce que la communauté du peuple de Dieu, donc comment nous, on reçoit ça, et l'Esprit Saint qui est le trait d'union finalement entre ces deux pôles. Voilà. Et donc on a le côté de la, ré, de la réception, qui est le côté de la foi, qui est à la fois une connaissance interprétative qui est marquée par les conditions historiques de l'époque, par la personne qui reçoit, et chacun reçoit et va parler différemment. Voilà, parce que bah, il a son propre prisme et sa propre subjectivité qui rentre en jeu. Et donc, on a ce, ce voilà ces deux parties qui font que du coup, il y a toujours quelque part, il y a une réactualisation. C'est ça l'actualisation en fait. C'est que de, la relation elle est forcément à repenser à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne. Pour être actuel, puisque moi aujourd'hui je suis différente de forcément les personnes de l'époque. Donc il y a ce, ce, cette actualisation de toujours remettre le lien dans une communauté église et dans une vie concrète. Voilà. On est dans la vie et pas dans, le, dans les idées. Alors une fois qu'on a dit tout ça, bah, du coup c'est quoi la place des communications mystiques, des expériences charismatiques ? Alors, déjà, on peut voir que Jésus, il n'a pas arrêté les visions. Il n'est pas fait à sa commande, parce que déjà, il est né de ça. Parce que l'ange Gabriel apparaît à Marie, et que c'est elle qui reçoit une première apparition de l'ange et qui va permettre ce miracle de la naissance de Jésus. On a aussi Saint Joseph qui a des visions à deux reprises pour accueillir Marie chez lui et prendre et devenir le père de Jésus. Et puis, quand il doit s'enfuir en Égypte pour éviter d'être au moment du massacre des innocents. Donc, on a voilà, le début de, des évangiles, et donc la vie même de Jésus, elle est avec des, de l'apparition et de la vision. On voit aussi que le Christ il guide ses apôtres par des voies intérieures, vision, audition, motion, songe. Alors, on a toutes les thématiques possibles. Donc le plus probant, c'est saint Paul, parce qu'il a vu le Jésus ressuscité sur le chemin de Damas, se veut pleinement apôtre. Donc il a vu Jésus ressuscité, c'est pour ça qu'il peut d'ailleurs s'appeler apôtre, puisque c'est témoin, donc c'est un vrai témoin. Or, c'est une apparition, c'est pas, il n'a pas vu charnellement comme, comme les autres apôtres. Donc on est bien, non, donc ça a du sens, enfin je veux dire, c'est pas juste... C'est pas juste anecdotique et psychologique, donc ça a l'air d'être structurant, puisqu'on peut même aller jusqu'à l'appeler apôtre à cause de ça. Et donc on voit bien qu'il y a une. Donc saint Paul met une liste des apparitions fondatrices. Il parle de l'apparition à saint Pierre, à plus de 500 apôtres, etc. Donc il cite 4-5 apparitions qui ont eu lieu tout au début de Jésus ressuscité. Et puis après, il parlera d'autres apparitions, mais qui sont. Plus diffuse et moins fondatrice comme celle-là, parce qu'on n'a pas le, l'impression d'avoir le contact avec Jésus ressuscité, charnellement. Donc ça, c'est important, puisque déjà, le Christ ressuscité, on peut parler d'apparition. Voilà, alors, je ne sais pas si on peut dire après que les apparitions qu'il y a eues, c'est de même nature. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'apparition fondatrice pour celle-là, puisqu'elles sont vraiment liées à la personne encore... entre la résurrection et l'ascension, donc on a un Jésus qui est encore sur terre, on va dire, et puis les apparitions ultérieures, qui ne sont pas d'ailleurs toujours le Christ, mais qui peuvent être d'autres personnes, qui sont moins fondatrices, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas si simple de voir une frontière nette entre les deux, et on voit bien qu'il y a quand même toujours une subjectivité du récepteur. Les apparitions à Marie-Madeleine, on a cité tout à l'heure, Marie-Madeleine et Rabboni, bah, c'est différent de celle de Saint-Pierre qui nous est juste rapportée mais qu'on ne décrit pas. Voilà, donc on a l'impression que c'est quand même à chaque fois, il y a l'intervention de la subjectivité du récepteur. Donc après, ce qu'on voit, c'est que le nombre de témoignages que l'histoire chrétienne a enregistrés après Jésus-Christ, on voit bien que Dieu il s'est donné à voir de manière non ordinaire, dire que voilà comme des réalités surnaturelles et non qui normalement sont invisibles, normalement on devrait plus voir Jésus ou Marie et donc on voit que toutes ces places de ces communications du ciel elles continuent d'être très importantes et à peu près à toutes les époques de la vie de l'Église avec des pics quand même. Le 19e a l'air assez pic, mais il y a aussi le 12e où il y a eu pas mal d'apparitions. Donc, du coup, il y a des points d'orgue, mais qui sont plus liés au fait des récepteurs et puis qu'est-ce qu'ils en ont fait. On voit que la vie, les apparitions, les visions, enfin, ou les songes, ou tout ce qu'on veut mettre, toutes les différentes thématiques que vous pouvez mettre derrière, accompagnent la vie des saints. Et qu'elles sont la source d'innombrables initiatives dans l'Église, puisqu'elles ont parfois influencé sur la liturgie. On voit un peu plus loin le cas de la fête de Dieu. L'élaboration de la pensée théologique, où Adrian von Speer, par exemple, a beaucoup influencé le père Urson Balthazar. Donc on voit bien qu'il y a une véritable influence de ces visionnaires. On peut parler d'un magistère des saints, qui est pas, et on voit bien que l'Église elle reconnaît parmi ses saints 37 docteurs. Alors c'est à la fois pas beaucoup et puis à la fois c'est déjà ça, donc elle considère comme des docteurs, c'est-à-dire des gens qui enseignent et qui donnent quelques accès à de la révélation et à des choses qui peuvent être des données de foi. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces visions et ces saints qui ont été un peu de nature différente et de profils très différents, parce qu'ils voient les choses sous un angle différent, parce qu'ils se laissent habiter différemment, on va dire, d'un savoir peut-être plus théorique, ont permis de préparer un certain nombre de choses. Parfois, ils étaient en avance de phase par rapport aux théologiens ou par rapport à l'Église, le magistère. Mais finalement, il y a eu des choses qui sont initiées et donc qui sont les initiateurs de ça. Alors, je vous cite notamment le Sainte-Julienne de Cornillon, voilà, pas forcément super connue, mais quand même, elle a eu des visions pendant ses adorations eucharistiques. Et du coup, le Seigneur lui a expliqué, donc dans sa vision, elle a une explication de ce que ça fait. Elle voyait une lune qui était toute transparente avec un trait un peu opaque. Et c'était comme s'il y avait toutes les fêtes liturgiques qui étaient bien blanches et toutes bien. Et puis, il y avait un rayon opaque, donc il manquait une des fêtes liturgiques. Voilà, donc c'était ça la signification. Et donc, le Seigneur lui demandait de promouvoir et d'œuvrer pour qu'il y ait cette fête de l'Eucharistie, pour que les croyants puissent adorer l'Eucharistie, faire croître leur foi, avancer dans la pratique des vertus et réparer les offenses au très Saint-Sacrement. Donc on voit que ça crée du coup une fête liturgique. Alors, c'est pas que le Saint-Sacrement peut être fêté en fait tous les jours, chaque fois qu'il y a la messe, mais voilà, l'idée c'est de le mettre en avant. Et donc, ça a fait avancer, et finalement, c'est une fête tout à fait inscrite dans notre calendrier. Donc, on voit que c'est un cheminement entre Sainte-Julienne, un prêtre qui est ensuite, qui a pris ça localement, et puis ensuite, comme il est devenu pape, du coup, ça s'est porté à une autre échelle. Donc, on voit ce cheminement qui avance à des rythmes un peu différents, mais où il y a une vraie influence de ces visions sur un certain nombre de choses. Alors du coup, on pourrait se dire que finalement, c'est peut-être plus charismatique du côté des visionnaires et des songes et des saints que du côté de l'Église, qui a l'air un peu poussiéreuse. Voilà, je vais le faire en raccourci. Et le courant charismatique, au sens comme on appelle maintenant charismatique, a pris soudain une place importante dans l'Église dans la fin des années 60. Donc il est parti des États-Unis près des pentecôtistes protestants sur les campus universitaires. Et du coup, il a été réapproprié par les catholiques, et on appelle ça le renouveau charismatique, qui met en avant une vraie joie communicative de la prière, donc une prière beaucoup plus démonstrative et plus joyeuse, et l'appel fervent à l'esprit, donc quelque chose de plus marqué de ce côté-là, et qui demande des miracles, et y compris de retourner les cœurs. Voilà. Et au départ, c'est parallèle, c'est-à-dire que c'est pas du tout ancré avec les prêtres, c'était notamment à côté de tout ce qui est de sacrement et sacerdoce ministériel. Et puis, petit à petit, ça s'est intégré. Et finalement, il y a eu, on peut dire que dans, par exemple, tout ce qui est les pratiques d'adoration eucharistique, il y a eu une convergence des deux. Et donc, finalement, quelque chose qui est au bénéfice de tous et qui s'est intégré dans l'Église de la même façon que l'adoration du cœur du Christ. Paul VI, en 75, donc assez précurseur, le charismatique est une chance pour l'Église. Donc, bien loin de dénigrer ces choses-là en disant que c'est des gens un peu excités. Non, il reconnaît que c'est une chance. Et on voit bien que le pape, et ça fait référence aussi à ce qu'on a vu la fois dernière sur le rôle du pape, qui, parce qu'il est peut-être moins dans un troupeau à mener, qu'il a une vue plus haute de toute l'Église et de l'universalité de l'Église, et puis peut-être parce qu'il est successeur de Pierre aussi, et donc il a cette charge-là du troupeau, en fait, il peut discerner ses élans d'esprit. Et on l'a vu tout au long de l'histoire avec des saints qui sont venus alors à l'époque il n'était pas saint, mais qui voulait fonder une nouvelle communauté ou une nouvelle ou renouveler des choses. Et c'est souvent à Rome qu'auprès du pape qu'ils ont trouvé accueil par rapport à ce qu'il est. Donc c'est vrai qu'il y a ce lieu, et ça nous montre aussi bien qu'il y a une forte intégration et que c'est pas une opposition entre le magistère d'un côté qui a l'air un peu théorique, un peu voilà, avec des choses un peu prudentes, un peu qui bougent jamais, et puis ces choses d'effervescence, on va dire spirituelle. Bah en fait les deux vont ensemble, hein, et finalement on voit que entre le pape et ces saints un peu qui ont bougé les choses, et ben bah ça se connecte, et c'est ça l'Église aussi. Voilà, et je trouve que c'est plutôt... et chaque fois qu'on essaye de mettre de la division en disant bah, c'est en opposition, bah, en fait, on est à côté de la plaque, et c'est plutôt quand il y a la communion que là, on voit l'Église en œuvre, et que la révélation est probablement la plus active ou la plus reçue. Voilà, et cette provocation charismatique, donc elle a vraiment été dans son sein, et elle a empêché qu'on s'endorme sur nos routines, et elle a réveillé le goût de la prière, le zèle des armes, l'ardeur pour la vie communautaire. Enfin, il y a eu plein de initiatives de l'Église qui sont liées à cette provocation charismatique de certains saints, individuels ou collectivement, parfois en transmission aussi. Et ainsi, on peut dire que l'Esprit Saint ouvrassait à chaque moment l'Église à ce qui est son seul véritable avenir. L'Église, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Donc, on est exactement dans l'Apocalypse, qui est sur le domaine charismatique, assez probant, avec ce traversée de l'Esprit Saint pendant toute l'Apocalypse. Alors, quel sens on peut leur donner ? Parce que, d'un côté, qu'est-ce que ça veut dire, ces interventions ? Et puis, parfois, on est un peu frileux, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le croyant, il a foi en un Dieu personnel. Et donc, par ses initiatives personnelles, il est venu dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est l'intervention du Christ. Et il y demeure activement présent. L'Eucharistie, elle nous est donnée aussi à chacun dans la communion. Et donc, on a bien cette individualisation, on va dire, de Dieu qui se manifeste à chacun. Donc, dès lors, on peut se dire qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que des anges, des saints, la Vierge Marie, etc., par ces personnes-là, Dieu se manifeste à quelque élu d'une manière extraordinaire, préternaturelle, ça veut dire qu'il sort de la nature normale des choses, dans une vision, une apparition. Alors, ce que nous dit la théologie et le dogme, c'est que c'est possible, voilà. Elle dit pas que c'est... elle dit juste que c'est possible. Voilà. C'est pour ça que l'Église a jamais canonisé en tant que telle les apparitions. Alors, j'espère que... J'ai pas trouvé toutes les sources de tout. Donc, a priori, elle a jamais canonisé une révélation en tant que telle. Et elle ne demande pas donc qu'on ait foi, enfin ou qu'on le dise, on affirme je crois à toutes aux apparitions. Par contre, elle a, lorsqu'elle béatifie ou canonise quelqu'un, elle tient compte de son expérience visionnaire, et dans ce cadre-là, elle le déclare comme authentique. Donc, si on prend le cas de Lourdes, c'est à peu près ça qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est à la canonisation de Bernadette que du coup, Lourdes devient par le fait même authentique. Voilà. Mais on n'est pas obligé, en tant que chrétien, d'avoir foi et de dire qu'à Lourdes, il y a des miracles et que la Vierge d'Armo est apparue. Ça ne fait pas partie des choses qu'on doit porter en tant que chrétien. Donc on a possible.
Si on prend la rue du Bac, c'est pas le... Sainte-Catherine, elle a été canonisée, mais ça n'a pas forcément été reconnu après.
Voilà, enfin, mais c'est pas toujours. Donc c'est pour ça que ça, elle la déclare authentique comme authentique, mais c'est pas systématique, tout à fait. Et par contre, il n'y a pas la vision qui est canonique, que vous serez dit sans qu'on fasse référence à la personne. En fait. On parle de personne et pas de voilà. Alors en fait, on voit que rares sont les saints qui n'ont pas eu au moins une fois une vision déterminante. Alors je vous fais des statistiques, hein, moi je prends juste une phrase qui est dit quelque part. Par contre, c'est très rare ceux qui en ont eu en permanence. Donc ça aussi. La vision, elle est quand même entre le secret, entre Dieu et l'âme. Donc, on est sur quelque chose d'assez personnel. Alors que l'apparition, normalement, elle a un statut public. Même si tout le monde ne voit pas. Même Saint-Paul, sur le chemin de Damas, en fait, ses voisins ont entendu qu'il y avait une voix. Ils n'ont pas compris la voix, ils n'ont pas vu les choses, mais ils ont entendu. Donc il y a un statut public. Il y a quelque chose qui se passe qui est plus public. À Pontmain, c'est pareil. Les gens ne voyaient pas, mais ils voyaient qu'il y avait quelque chose. Enfin, ils percevaient qu'il y avait quelque chose. Voilà. Donc l'église, elle est toujours dans la discrétion. Si on commence à écrire des volumes et qu'on raconte sa vie et qu'on en décrit trop, probablement que ça ne lui donnera pas envie de la rendre crédible. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, je trouve que la phrase, elle est assez... Je ne sais plus quel auteur, Vergogne, je crois, ou je ne sais pas quoi. Que notre foi est trop sérieuse pour dépendre de la croyance en ses apparitions et d'autre part, elle est assez humaine pour ne pas s'en offusquer. Je trouve que c'est un bon résumé du statut des visions et apparitions. Et donc, c'est quelque chose, si ça peut, on va le voir après, mais si ça peut faire avancer les libertés de la personne et qu'elle se tourne vers le Christ, et ben, tant mieux. Voilà. Et l'Esprit Saint, il utilise, il fait feu de tout bois. Et donc, ben, tant mieux. Voilà. On a quand même des cas où le message du ciel, qui a l'air authentique, et en plus le bénéficiaire a été sanctifié, par exemple Sainte Catherine de Sienne, il dit des choses et que probablement du fait de ses représentations mentales ou de la façon dont il le traduit, etc., bah, parfois ça a l'air un peu contradictoire avec ce qui s'est dit par ailleurs. Et donc dans ce cas-là, on va trier. Catherine de Sienne a dit, elle a reçu du Christ, soi-disant, l'assurance que sa mère n'était pas l'Immaculée Conception. Comme c'est un peu contradictoire avec une autre vision et puis un dogme de l'Église, bah, voilà, on se dit qu'il y a probablement ce jour-là, elle n'était pas très bien ou elle n'avait pas bien lu son truc, enfin j'en sais rien, mais voilà, du coup, ça n'empêche pas d'être sainte, et Catherine de Sienne est un docteur, donc elle est tout à fait une sainte respectable, mais ça veut dire que voilà, il n'y a pas, c'est pas quelque chose de mécanique en tout cas. Et ça, c'est plutôt aussi bien, parce que la révélation, on n'est pas propriétaire de la révélation, et donc même quand on a une vision, voilà, c'est pas toujours systématique, et donc il faut le replacer dans un cadre pour s'assurer que c'est en cohérence avec les autres. C'est un peu ce qu'on a vu quand on avait vu les Écritures, les Saintes Écritures. On se disait, c'est pas, si on prend chaque verset séparément, on peut trouver dire des choses. Mais finalement, ce qui donne la cohérence, et c'est ça qui rend la force. Et donc, il ne faut pas sortir les choses individuellement. Et donc, il faut les regarder dans la cohérence de l'ensemble. On est dans le même cas de figure. Le cardinal Ratzinger, à l'époque où il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, au moment de la publication du troisième secret de Fatima, il dit « L'interprétation ne revient pas aux voyants, mais à l'Église. » Voilà, et il y a ce jeu entre quelque chose qui est très individuel et subjectif, et du coup, il faut être prudent parce qu'il y a du subjectif, et comme aussi il y a pas mal d'individuels, du coup, il y a un prisme qui est moins, voilà, qui est plus à risque. Et de l'autre côté, l'Église qui remet cette dimension collective, et puis qui remet cette dimension dans un ensemble de choses pour le remettre dans l'histoire du salut. Voilà, et donc c'est pour ça que l'Église... Elle exerce son discernement de façon très prudente, beaucoup pensent trop prudente, mais l'idée c'est de laisser l'esprit agir, mais de ne pas faire dire n'importe quoi. On est exactement dans le cas de figure de ce que je vous disais en introduction, où elle est garante qu'il y a une continuité et qu'on n'est pas, on ne fait pas dire n'importe quoi aux choses. Voilà, mais par contre il faut garder ce feu de l'esprit, et donc n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le, et ce qui n'est pas bien, je vous ai pas mis la suite, et ce qui n'est pas, je sais plus ce que c'est, ce qui n'est pas, c'est pas bien, ce qui est mal, éloignez-vous, je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, donc Saint Paul, il dit, voilà, il faut écouter l'esprit, mais il faut faire preuve de discernement, et donc, et ce discernement, il est dans l'Église, il n'est pas individuel, il n'est pas subjectif. On peut dire aussi que ces visions, c'est un don gracieux de Dieu, mais que finalement, on a tous une présence active de l'Esprit de Dieu dans notre vie de prière, dans notre expérience de foi, dans nos conversions, dans l'Eucharistie aussi. Quelque chose, quelque part, on est tous des visionnaires, en fait. Alors, la seule chose, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau et que parfois, on ne se laisse pas... embarquer aussi loin, mais donc il y a aussi cette idée que de toute façon, comme l'Esprit Saint est à l'œuvre, c'est normal qu'il y ait des visions et des enseignements de l'Esprit Saint. Voilà. Saint Paul parle des visions comme un charisme, mais qui n'a pas l'air plus important que d'autres charismes dont il parle. Et donc, ce qui est important, c'est de laisser agir ses charismes et de le faire dans un discernement d'Église. Voilà ce qu'on peut dire sur les manifestations. Alors, du coup, ça ne répond pas non plus complètement à la question de ce qu'on disait, que l'histoire qui avance et ce temps après l'ascension jusqu'à la fin des temps. Comment on peut parler d'avancement de l'histoire ou de progrès, mais je pense que le mot n'est pas employé comme ça, et on va le voir tout à l'heure. C'est qu'il faut tenir le fait que le Christ, il est central. Et donc, on n'est pas dans un temps linéaire. Alors, il est linéaire d'une certaine façon. Il y a la Genèse au début, il y a la fin des temps à la fin. Donc, il y a une forme de linéralité. Mais étant donné qu'il y a l'événement de Jésus-Christ qui intervient dans le temps d'histoire, du coup, il y a une sorte de reconcentration qui fait qu'il y a un centre dans ce linéaire. Donc, la figure du Christ, elle est l'alpha et l'oméga, mais elle est aussi ce centre qui, du coup, est le présent toujours. Donc, il nous fait entrer dans les derniers temps. Et donc, quelque part, la révélation, elle ne se continue pas après le Christ comme elle avait commencé. Parce que dans le Christ, Dieu a tout livré. Et donc, après, ça ne peut pas être pareil qu'avant. Voilà. Donc, le Christ est la figure de la révélation. C'est ce que nous, l'expression de Orson Balthazar. Donc, il est le centre qui organise harmonieusement toute l'économie de la révélation. Et en ce sens, qu'il est dans sa visibilité même l'épiphanie du Dieu invisible. Donc, c'est plus un signe qui nous rappellerait le Christ invisible. Il est vraiment le Dieu qui se rend manifeste. Donc, ce que dit Orson Balthazar dans La gloire et la croix, c'est ce qui, selon les données de la Bible, est l'image et l'expression de Dieu, c'est l'homme, Dieu indivisible, l'homme dans la mesure où Dieu resplendit en lui, et le Dieu dans la mesure où il apparaît en l'homme Jésus. Et c'est cette combinatoire de l'homme-Dieu qui rend l'événement du Christ central et qui fait qu'après, ce n'est pas pareil. Alors, on a deux façons de considérer le temps depuis le Christ, qui ont toutes leurs deux des parts de vérité, donc il ne s'agit pas ni d'éloigner l'une de l'autre. Alors, je laisse un peu de côté le millénarisme. Le millénarisme, c'est la croyance selon laquelle les 1000 ans du règne terrestre du Christ annoncés dans Apocalypse 20:1-6, quand je vous dis qu'Apocalypse, il est assez tendance charismatique, antérieurement au jugement dernier. Donc, on dit il y a le jugement dernier, puis il y a 1000 ans avant la Jérusalem terrestre, céleste, et donc... les millénaristes, ils pensent que ça, c'est un temps précis dans l'histoire et donc ils cherchent la date qui a été pensée à un moment donné en l'an 1000, mais manifestement ça n'a pas eu lieu, ni en l'an 2000 d'ailleurs. Ça reste toujours présent et ça n'a jamais été condamné vraiment, parce qu'il y a quelque chose de vrai, puisqu'on parle d'une histoire qui est incarnée et qui est une vraie histoire, et pas de juste... on parle de corporel, on parle de choses qui sont charnelles. Donc le temps d'histoire, donc, du coup, c'est pour ça que c'est pas condamné complètement, parce qu'il y a quelque chose de vrai, donc quand même il y a des événements, et il y a déjà, c'est pas complètement neutre. Donc la première façon de regarder le temps, c'est de dire tout nous a été donné dans le Christ, donc il peut rien y avoir de significatif depuis, et donc on attend juste la fin des temps. C'est le temps de la patience de Dieu, de la nôtre aussi peut-être. Il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Donc c'est l'idée que ce temps, il s'étire parce que Dieu attend que un maximum et qu'il ait le plus de convertis possible. Et que quand il jugera qu'il a le corps m'est atteint, je ne sais pas comment on peut dire, et du coup, il y aura la fin des temps. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais quelque chose de ça. Donc c'est un temps de l'approfondissement quand même, où on a un temps de l'apostolat, parce que pour qu'il y ait le plus d'élus et donc que la fin des temps, elle se rapproche, il faut qu'on fasse de l'apostolat pour qu'il y ait le plus de croyants possible. Voilà, et puis pour sauver les âmes. Voilà. Alors après, dans cette mouvance-là, on a deux tendances, on va dire. Saint Augustin, qui du coup, lui, aucune construction terrestre n'étant destinée à durer, il ne faut surtout pas s'y investir trop. Donc on fait le strict minimum, enfin on fait juste ce qu'il faut et surtout on fait de l'apostolat et puis le reste ça entendra. Saint Thomas est un peu plus sensible à la valeur humaine des expériences et donc un peu moins négatif sur les constructions humaines. Donc ça c'est une première façon de regarder ce temps qui est vrai puisque de fait on attend la fin des temps. Le deuxième façon c'est de dire il y a des signes des temps et même Jésus nous en a parlé dans Matthieu 16:3, donc il parle des signes des temps et qu'on doit repérer. Voilà. Et là, l'idée, c'est de lire les événements spirituels de notre vie, les tournants de la vie de l'Église, même les grands jalons dans le monde, pour essayer de comprendre les invitations à qu'est-ce que ça veut dire, Toujours dans cette démarche de conversion et de se rapprocher de la fin des temps le mieux possible, mais avec cette idée de discerner qu'est-ce qu'on me demande et qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Et donc, c'est les invitations à saisir des appels nouveaux, à voir comment on pourrait faire des champs d'apostolat différents, à comprendre mieux un message d'évangile pour... et tout en attendant la fin des temps et le retour du Christ, mais en essayant de faire fructifier tout ça. Et donc, et ce qui est vrai, puisque Dieu, bah, peut-être qu'il n'intervient plus comme il l'a fait par le Christ et dans les temps bibliques avant, mais il inspire la marche de son Église, et donc, quelque part, il lui dicte des voies d'avenir. Donc, c'est pas un temps mort, quoi. Voilà. Et donc, tous ces événements, ces signes, ils sont comme une préparation évangélique par rapport au royaume, comme des pierres d'attente, j'aime bien l'expression, par rapport à l'accomplissement ultime de l'histoire qui sera Dieu tout en tous. Et donc, c'est à leur manière une parole de Dieu, au sens où c'est une parole reçue pour moi aujourd'hui, donc dans cette une révélation qui m'atteint moi, et qui permet de déployer ce que nous dit l'Écriture, l'Église, la tradition. Alors, il ne faut pas avoir une lecture un peu rapide des signes des temps. Tout n'est pas signe des temps au sens où ça prépare le royaume. Voilà, parce que sinon, je fais des carottes et voilà, c'est pas ça le sujet. Et le bon critère, c'est se dire ce qui favorise la liberté humaine et donc la possibilité d'ajuster notre liberté humaine à la liberté de Dieu. C'est ça qui sont des signes des temps. Et voilà, c'est par rapport à notre relation à Dieu. C'est pas juste des événements. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet toujours d'avancer plus vers Dieu et d'être plus dans ce temps de la fin des temps où Dieu sera tout en tous, même si ce ne sera que à la fin des temps. Alors ça nous donne un sens de l'histoire. Du coup, on n'est ni dans un progrès linéaire, comme si on avançait, et puis à la force des poignets, on va arriver, on va gagner des choses, on va mieux comprendre, et donc on serait mieux qu'il y a 2000 ans. Ni dans un déclin continu. Le pessimisme aussi qui dit oui, mais c'était mieux avant et c'est pire, et c'est de pire en pire depuis que le Christ est monté au ciel. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Et dans l'histoire de l'Église, c'est exactement ça non plus. On a des. Voilà, il y a des hauts et des bas. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que seul le dernier jour donnera son sens à toutes les étapes antérieures. Et donc, quelque part, le sens de l'histoire, il va être compris ou perçu à la fin. Parce que pour l'instant, on a le péché et la grâce qui coexistent et que cette ligne, les deux sont mêlés dans chacune de nos vies et que ce qu'est le jugement et ce qu'est le Christ et le retour du Christ, c'est la lumière. Et donc, c'est ce qui fera cette clarté qui permettra de discerner et de juger, c'est ça le jugement, et pour faire la lumière surtout. Voilà. Donc, il y a des jugements partiels, il y a des choses qui... commence, il y a des choses qui se dénouent, on peut dire qu'il y a des jugements partiels, mais en tout cas le jugement final, c'est lui qui apportera la vraie lumière et ce sera que à la fin des temps qu'on comprendra le sens de tout ce qui s'est passé. Et donc on peut lire des choses de l'histoire d'un peuple ou d'une civilisation. C'est vrai qu'on voit des grands événements comme la destruction de Jérusalem en 70 qui a changé complètement la donne pour les Juifs, la prise de Rome qui fait que l'Empire romain disparaît, donc c'est une nouvelle donne et un nouvel ère. C'est à l'échelle humaine, mais au-delà de ça, c'est aussi à l'échelle de la vie chrétienne et donc de la vie de l'Église. Couramment de Charlemagne, la Révolution française, on peut citer plusieurs. Voilà, et on peut dire que c'est des moments charnières, il se passe quelque chose. Donc c'est le kairos en grec du Nouveau Testament, qui sont comme des passages de Dieu, un peu comme le creuset, l'or qui est mis au creuset pour être éprouvé. Voilà, on est dans cette dimension-là, qui fait qu'il y a des choses qui disparaissent et qu'il y a des temps nouveaux. Mais ça reste toujours partiel. Voilà. Donc on peut reprendre l'idée hegelienne de l'histoire considérée comme totalité qui ne reçoit son sens qu'à partir de son achèvement. Et si l'histoire est révélation de Dieu alors qu'elle n'est pas achevée, c'est parce que la fin de l'histoire est anticipée dans le destin de Jésus de Nazareth et plus particulièrement dans l'événement de la résurrection. Et donc c'est dans la résurrection qui est comme prolepse, ça veut dire une avancée de la fin de l'histoire, et donc qui nous donne la clé. Donc, quelque part, on a déjà la clé de tout avec la résurrection du Christ et le Christ ressuscité. Mais on n'en perçoit pas toute la lumière. Et c'est seulement au jugement final qu'on va avoir toute la clarté de ça. Donc, en fait, tout est joué dans la résurrection du Christ, puisque c'est ça qui est on a déjà cet événement et ce sens complet de toute l'histoire du salut qui est là. Et en même temps, on ne le perçoit pas tout parce qu'il y a encore le péché qui est là. Et du coup, il nous faudra la fin des temps pour comprendre dans toute sa lumière qu'est-ce que ça voulait dire et qu'en fait, on avait déjà tout. Voilà. C'est, j'espère, pas trop complexe. Et Et donc l'événement de Jésus-Christ, il est la même chose que, on peut dire, que le reste de la révélation. Il prendra son sens pour nous qu'à la fin des temps, même s'il est déjà, plaigné en tant que tel. Et donc on a cet aller-retour entre le passé, le présent et puis le futur, qui est bien l'économie dont parlent les pères grecs, hein, économia, c'est économie, qui désigne la complexité de l'histoire du salut. Donc c'est pas un progrès, c'est pas, il y a quelque chose qui est complètement donné. Donc on va le voir après. C'est le déjà là et pas encore, ma phrase favorite. Mais c'est cette ambiguïté sur ce temps qui fait que le mystère est manifeste et complet. Depuis la résurrection du Christ, mais qui se déploie progressivement dans l'histoire en même temps qu'il se réalise. Parce qu'il se réalise pour moi et que moi, je suis dans l'histoire à un instant T. Donc, on peut dire qu'il y a un progrès de la révélation comme mémorisation constante d'une interprétation initiale et avec une sorte de réinterprétation de la foi primitive qui permet à chaque fois d'avancer, mais qui est en fait une nouvelle vue ou un nouveau débordement de quelque chose qui était déjà là complètement. Et c'est du fait de l'interprétation dont l'autre pôle de la révélation, c'est-à-dire Dieu se donne et moi je reçois, et c'est de mon côté qu'il y a cette réinterprétation continuelle parce que je n'ai pas la lumière complète. Et donc on peut dire qu'il y a des progrès dans l'Église, d'une certaine façon, il y a des choses qui... Voilà, quand on voit le développement du dogme et qu'on a mieux compris, par exemple, la Trinité ou la double nature du Christ, on peut dire qu'il y a un progrès. Enfin, objectivement, on comprend mieux et on parle mieux, enfin, on perçoit mieux qui est Jésus. Mais ça reste souvent une mise en lumière d'un aspect et on a du mal à garder la totalité. Donc, c'est souvent au détriment de quelque chose. Et ça, c'est aussi parce qu'on est dans le monde du péché, donc de la division. On a du mal à garder la totalité, la communion de l'ensemble. Et en gardant tout le relief de tout. Voilà, parce qu'on est, c'est un peu au-delà de ce qu'on arrive à gérer. Et puis parce que le péché nous incite à toujours segmenter les choses. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises en relief et qui ont beaucoup avancé. Et puis petit à petit, il y a d'autres du coup, parties qui sont maintenues. Et du coup, ça déstabilise un petit peu. Et on a ces mouvements de balancier. Alors déjà là et pas encore, c'est tant que le devenir de l'humanité n'est pas achevé, il est permis de dire que l'avenir de Dieu fait homme demeure ouvert. Donc on est toujours dans un avenir. Tout est révélé, la révélation est définitive en Jésus-Christ, mais la connaissance que nous avons de Jésus-Christ comme révélateur du Père est encore une connaissance provisoire. Et donc nous ne disposerons d'un savoir absolu sur Dieu et sur l'histoire qu'à la fin de l'histoire. Et parce qu'il nous sera donné par Dieu, parce que nous tout seuls, on ne va pas y arriver avec notre petite intelligence. Même purifié. Ainsi, dans le temps de l'histoire qui continue, il y a des événements qui sont comme des épiphanies de Dieu, en ce sens qu'ils nous aident à comprendre le dessein de Dieu sur le monde et sur l'homme. Et bien que le Christ soit l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a encore un avenir de Jésus-Christ, au sens où l'histoire est justement le lieu de la réalisation progressive des possibilités d'avenir contenues dans la résurrection. Donc c'est comme si tout était là dans la résurrection, mais qu'il y a un avenir à cette résurrection, tant qu'elle n'est pas déployée en tous. Voilà, on peut parler d'une révélation continue au-delà de la révélation au temps de Jésus. Et donc, c'est le déjà et le pas encore. Et donc, on doit rester dans cette ligne de crête où on est tendu vers l'eschatologie, vers la fin des temps, et en même temps à reconnaître les nouveautés du temps présent qui s'éclairent de la résurrection du Christ. Et donc, on a toujours cette alliance entre le passé et le présent, passer le futur et qui se cristallise dans le présent. On peut dire, je ne l'ai pas mis là, mais c'est un peu comme l'Eucharistie qui est à la fois Jésus, il est là complètement présent dans l'Eucharistie et en même temps, avec nos yeux, on ne voit pas forcément tout bien. Et donc, c'est du complètement là, on est déjà au ciel et en même temps, on n'a pas l'impression d'y être parce qu'on a du mal à le vivre. Voilà. Et pourtant, il est pleinement là, quoi. Peut-être même plus que nous. Je pense que dans l'Eucharistie, Jésus, il est plus présent que nous devant lui. Donc. Et je voulais terminer par cette phrase, c'est le Père Giton, la conclusion est toute du Père Giton. Voici que je fais toute chose nouvelle. C'est un Apocalypse 21.5, qui est décidément très inspirante pour ce cours. Ces paroles du Seigneur sont à prendre très au sérieux. Malgré l'impression trop souvent ressentie, l'Église ne regarde pas de façon maladive vers le passé, elle est tournée vers l'avenir. Son Dieu est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Sa révélation n'est pas un texte mort, un ensemble de paroles incompréhensibles au commun des mortels. C'est un acte décisif de Dieu dont la parole a retenti dans l'histoire, où elle s'est inscrite profondément pour mieux nous entraîner vers un avenir où le Christ nous attend. Et le Christ, il est, on le redit récemment puisqu'on est dans tous les textes de Saint Jean, mais il est à la fois le terme et à la fois le chemin. Donc on est bien, voilà, il est des deux côtés. Il est... la solidité, la précision de cette inscription était indispensable pour nous éviter de fluctuer à tout vent de doctrine. Donc là, c'est l'idée que même si on a des révélations et qu'on se laisse mouvoir, je ne sais pas si on peut dire ça, par l'Esprit Saint, ben en fait, il faut replacer ça dans l'Église pour ne pas être dans le domaine pur de ma subjectivité, de ce que moi je ressens, mais pour le replacer dans un contexte plus global et vraiment recevoir la révélation et pas juste s'imaginer des choses. Et pour nous mettre vraiment en relation avec le Christ qui est le même hier et aujourd'hui, le sera pour l'éternité. Et la confession de la foi, c'est intéressant parce que elle est à la fois très... Quand on lit Credo, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est quelques lignes. Et en même temps, il est riche de plein de nouveautés parce qu'il dit l'essentiel et en même temps, il laisse la part pour que chacun le médite et le traduise sur ce que ça veut dire pour lui. Et on voit qu'à partir de cette confession de la foi, bah, en fait, elle a suscité des formes de vie sainte. Il n'y a pas plus différent que les saints. Enfin, moi, je suis toujours à affiner chaque fois qu'on trouve un nouveau saint. On se dit, mais c'est ça, encore rien à voir avec les précédents. Il y a une sorte d'effervescence de style de saints qui sont quand même incroyables avec tous les âges, tous les styles de vie, tous les charismes, tous les caractères, tout ce qu'on veut. On le voit aussi dans les œuvres d'art. Où c'est aussi très riche et on voit que les artistes se laissent inspiré pour dire des choses et laisser passer un certain nombre de messages. Ce serait tout un cours à faire avec Agnès sur les œuvres d'art, parce que je pense que ça... Il y a la parole, mais il y a aussi cette forme de parole-là. Voilà. Et puis les formes conceptuelles, bah, là, toute l'élaboration des dogmes, c'est puissant, quoi. Enfin, c'est de la lumière pour nos intelligences. Et voilà, donc c'est d'une plus grande intelligibilité des initiatives apostoliques en perpétuelle adaptation. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est le lien entre l'intelligibilité et l'apostolique, c'est toujours de replacer sur le fait que si notre intelligence, elle doit être au rendez-vous, et on parle aussi de vérité, de connaître le Christ tel qu'il est, donc ça fait appel à notre intelligence et elle a un rôle à jouer. Mais si c'est pas vécu dans une relation, en fait, ça reste juste de la théorie. Et on n'est pas des philosophes et on n'est pas de la théorie. C'est notre relation à Dieu. Et donc, en fait, il faut toujours la remettre dans une relation, qu'elle soit la relation de la prière envers Dieu ou la relation dans l'apostolat où, voilà, on va échanger et l'un avec la personne avec qui on parle, on va grandir dans cette intelligibilité, cette lumière. Voilà ce que je voulais partager avec vous.